La France est l'un des pays les plus fiscalisés du monde. Beaucoup d'impôts, mais une dette écrasante. Des dépenses publiques qui progressent, mais un service public perçu en dégradation. Mesdames et messieurs les députés, il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas, disait le Premier ministre aux députés cette semaine en annonçant des états généraux de la fiscalité. C'est l'une des revendications des Gilets jaunes, partis en guerre contre la hausse des impôts, des taxes et des charges de toutes sortes. Certains y ont vu une remise en cause d'ailleurs du consentement à l'impôt. La formule est cocasse, soit dit en passant. A-t-on jamais vu un contribuable exprimer son consentement à la taxation? C'est ce qu'on appelle une fiction juridique. Et pourtant, le consentement à l'impôt, historiquement, c'est 1789. C'est la déclaration des droits de l'homme qui décrit la nécessité d'une contribution commune pour l'entretien de la force publique et des administrations, l'impôt comme un droit et un devoir du citoyen en somme, mais un impôt qui doit être réparti entre les citoyens en raison de leurs facultés, ajoute aussi la déclaration des droits de l'homme, et c'est là qu'il peut y avoir débat. On l'a vu dans une récente enquête de l'Ipsos, 54% des Français seulement ont aujourd'hui le sentiment d'accomplir un acte citoyen en payant leurs impôts. Résultat bien sûr d'une injustice ou d'un sentiment d'injustice qui ne date pas d'hier sans doute, mais qui s'est aggravé. Le fait qu'au bas de l'échelle, alors qu'on a du mal à boucler les fins de mois, on voit les revenus du haut s'envoler et qu'on entend parler de fraude, d'exil, d'optimisation fiscale. Comme l'avait récemment noté le sociologue Alexis Spire dans une enquête sur la fiscalité, ce sont les ménages bénéficiaires des politiques sociales qui sont les plus critiques vis-à-vis des prélèvements. À l'inverse, l'adhésion au système est d'autant plus fièrement revendiquée par les classes supérieures qu'elles peuvent en apprivoiser les règles. Voilà, dans ces conditions, il paraît effectivement urgent de tout remettre à plat.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamp.
Acte 4 du mouvement des Gilets jaunes, ce samedi encore dans toute la France. Nous ferons bien sûr le point, si besoin, tout au long de cette émission. Le point complet dans un instant sur les blocages et les manifestations. Les reculs du gouvernement cette semaine n'auront pas suffi, la colère n'est pas retombée. Et pour cause, rien d'immédiat n'a été annoncé pour le pouvoir d'achat ou la justice sociale. Rien non plus sur la fiscalité. Sinon, bien sûr, l'abandon des augmentations de l'année prochaine. Ce gouvernement a mis le feu aux poudres. Comment peut-il sortir de cette crise sans se renier? C'est ce dont vous allez débattre dans un instant. Christian Chavagneux d'Alternative Économique, Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
La marge de manœuvre du gouvernement est étroite, hein, Christian Chavagneux.
Oui, mais il y a une marge de manœuvre. Je pense qu'il y a des voies de sortie.
Emmanuel.
Ah, il y a même des voies de sortie par le haut, comme on n'en a peut-être pas eu depuis 30 ou 40 ans.
Passionnant, on en parle dans un instant, on parlera aussi bien sûr de l'ISF, fallait-il le supprimer, cet impôt de solidarité sur la fortune, faut-il le rétablir? Ce choix d'ailleurs n'a pas été sans conséquence non plus sur les dons aux associations qui sont en baisse de 12% depuis un an, notamment à cause de cette suppression de l'ISF. En ce week-end de Téléthon, nous verrons pourquoi tout à l'heure avec le reportage d'Anaël Verzeau. Et puis pour sortir de cette crise, faut-il aussi mettre entre parenthèses les règles contraignantes de l'Europe, le dogme des 3% de déficit? Va-t-on vers un scénario à l'italienne ou bien l'Europe peut-elle être un levier? On en parlera avec notre invité Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors, ancien commissaire européen, ancien patron de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et puis enfin dans ma vie au boulot, un sujet de circonstance également, Sandrine Foulon répondra à Marina qui travaille dans un magasin à Bordeaux et redoute de nouvelles violences aujourd'hui. Alors peut-elle exercer son droit de retrait? Ma vie au boulot, c'est à 9h-5 tout à l'heure, à 10h-5.
Décembre 2018.
Il faut plus de transparence sur les impôts en France.
Édouard Philippe.
Si les événements de ces derniers jours ont démontré une chose, c'est que les Français ne veulent ni hausse d'impôts ni nouvelles taxes.
Premier ministre.
Ensuite, si les impôts baissent, il faudra que les dépenses baissent, car nous ne voulons pas léguer des dettes à nos enfants. Ces dettes sont déjà considérables.
Il n'y a pas d'hausse.
Amandine Laplanche.
C'est très bien, notre pouvoir d'achat ne baissera pas.
Gilets jaunes de l'heure.
Mais dites-vous bien que si on attend les 6 mois pour le reste d'amélioration, tout ça, pendant ce temps-là, nous, on a déjà la tête sous l'eau. C'est pour ça qu'on ne peut pas attendre et qu'il faut vraiment des mesures maintenant.
Un moratoire, ça veut dire quoi concrètement pour les gens?
Jean-François Barnaba.
Ça veut dire qu'au lieu qu'on leur en prenne encore davantage, on va leur prendre seulement ce qu'on leur prend actuellement.
Gilets jaunes de l'Inde.
Mais c'est trop ce qu'on leur prend actuellement. Donc
pour être très clair, vous demandez la baisse des taxes.
La baisse des taxes.
Le deuxième point, c'est quoi?
Le deuxième point, c'est l'augmentation des salaires et des pensions.
Depuis son élection,
Julia Cagé,
Emmanuel Macron a mené une politique fiscale en faveur des plus favorisés.
Économiste.
Ces cadeaux aux plus favorisés font que le pouvoir d'achat des 1% les plus riches a augmenté de 6% cette année et celui des 0,1% les plus riches a augmenté de 20% cette année. De l'autre côté, on a eu une baisse des allocations pour le logement, on a eu un gel des prestations sociales et on a eu une augmentation de la fiscalité énergie. Au final, le pouvoir d'achat des plus modestes, lui, a baissé.
C'est terrible de dire à des retraités qu'il faut augmenter.
Alexis Corbière.
C'est terrible qu'il y ait 6 millions de gens...
On va revenir sur les violences.
Député, La France Insoumise.
C'est terrible qu'il y ait 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté et que votre urgence était de supprimer l'ISF. Dans ce pays, il y a des gens qui payent pas assez d'impôts et d'autres qui payent trop d'impôts.
Mais nous ne reviendrons pas sur la suppression de l'impôt sur la fortune.
Gérald Darmanin.
On va pas changer la politique économique de notre pays, changer sa politique fiscale toutes les semaines.
Ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Tous ceux qui vous racontent qu'on peut à la fois augmenter les dépenses et baisser les recettes sont des bonimenteurs. Ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'est l'annulation de la taxe carbone pour l'année 2019 dans le projet de loi de finances. Mais ne préemptons pas un débat démocratique que chacun appelle de ses voeux avant qu'il n'arrive.
Il faut absolument que le gouvernement entende que l'on ne va rien lâcher.
Ingrid Levasseur.
Bien au contraire.
Gilets jaunes de l'heure.
On touche sans cesse à nos revenus. On vient nous voler dans nos poches l'argent qu'il nous reste pour nous nourrir. Franchement, je demande à quiconque de vivre avec 1250 euros et deux enfants en travaillant 12 heures par jour, en rentrant à la maison, en s'occupant d'eux et à finir les mois décemment.
Voilà, pouvoir d'achat, justice fiscale, tout remettre à plat sur la fiscalité. Personne n'en conteste aujourd'hui la nécessité. Reste bien sûr à s'entendre sur les réformes, ça ce sera plus compliqué. On va y revenir. D'abord, quelques chiffres, quelques rappels. La France est championne du monde des prélèvements. On l'a dit, 12 points au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. C'est en France que les impôts et taxes ont le plus augmenté depuis 2000. Bref, ce ras-le-bol fiscal qui se manifeste aujourd'hui, il vient de loin, Emmanuel Le Chypre.
Oui, il vient de loin. Effectivement, on a cette tendance à la hausse des prélèvements continue. Si vous regardez, par exemple, le chiffre symbolique, la fameuse barre des 1000 milliards d'euros de prélèvements, elle a été franchie cette année. Et c'est vrai qu'il y a un alourdissement de la pression fiscale. Alors, il y a Emmanuel Macron, mais il y a aussi, quand même, n'oublions pas, les augmentations d'impôts qui ont été assez massives, à la fois par François Fillon avant de quitter son poste de Premier ministre, avant la présidentielle de 2012, et puis les deux premières années de Jean-Marc Ayrault, puisque les calculs de l'OFCE publiés dans le portrait social de la France vous disent par exemple que finalement, eh bien, en moyenne, ces hausses d'impôts ont réduit le revenu des ménages de 500 euros, 400 pour les moins riches, et plus de 2500 euros pour les plus aisés. Donc oui, il y a un alourdissement important de la pression fiscale. Alors même s'il faut quand même se méfier de ce chiffre de champion du monde de la dépense publique, des prélèvements obligatoires, n'oubliez jamais que là-dedans, il y a les cotisations sociales.
Il y a les prestations
sociales, bien sûr. Et il faut regarder séparément ce qu'est cotisation sociale de ce qu'est prélèvement, mais ça ne change rien à la problématique de fond de cette masse de prélèvements.
À peu près le tiers des prélèvements est destiné à la sécurité sociale.
Exactement.
Prestations sociales, Christian Chavagneux.
C'est vrai, il faut rappeler ça, c'est que ce qu'on appelle fiscalité ou impôt, c'est l'ensemble de la somme des impôts et des cotisations sociales. Alors c'est vrai qu'on peut s'amuser à dire qu'on est les champions du monde, mais quand on distingue les deux, déjà quand on distingue qui les paie, ces prélèvements obligatoires, est-ce que c'est plutôt les ménages ou plutôt les entreprises? Moi j'ai fait un petit calcul, bon à la louche, plutôt 60% les ménages et 40% les entreprises. Donc pour l'instant je vais aller dans votre sens à tous les deux. Pourquoi le ras-le-bol fiscal? La première raison, c'est le niveau, d'accord? Mais quand on décompose entre impôts et cotisations sociales, on s'aperçoit que les impôts pour la France, on est à peu près au niveau des autres pays. C'est pas ça qui fait qu'on est les champions du monde du prélèvement obligatoire.
L'impôt sur le revenu est même assez faible.
L'impôt sur le revenu est même assez faible, mais il est compensé par la CSG. Donc nous, il faut additionner impôt sur le revenu et CSG. Et juste un chiffre qui m'a frappé, les cotisations sociales en 1960, c'était 28% du total de ce qu'on prélève. Aujourd'hui, c'est 53%. Donc on voit bien que la hausse, cette hausse des impôts, ce fardeau fiscal dont vous venez venez tous les deux de parler, c'est un fardeau qui en fait consiste à faire que la France est beaucoup plus solidaire que les autres pays en matière de santé, de chômage, de retraite. Et quand on sait ça, si on est toujours un adepte du trop haut niveau d'impôt, c'est que soit on est un défenseur de la privatisation de la protection sociale, soit on est un dirigeant du MEDEF pour qui les cotisations sociales, c'est pas du salaire différé, c'est juste un coût. Mais il y a une deuxième raison, je pense, au ras-le-bol fiscal, et vous l'avez évoqué, Yves, dans votre introduction, c'est le partage du fardeau. Aujourd'hui, le taux le plus élevé d'impôt sur le revenu, enfin en 95 c'était 59%, aujourd'hui c'est un peu plus de 50%. Plus vous êtes riche, moins vous payez proportionnellement d'impôts par rapport à 95. Le taux d'impôt des sociétés, c'était 42% dans le milieu des années 90, c'est 34% aujourd'hui. Et en plus, ça, ce que je viens de vous donner, c'est les taux affiché, parce que vous l'avez aussi dit, Yves, il y a toute la fraude fiscale. Il y a d'un côté le syndicat solidaire finances publiques et le syndicat de Bercy. De l'autre côté, un ancien directeur des impôts qui s'appelle Barry Larry, qui tous les deux, chacun de leur côté, ont fait une estimation. Et l'estimation de cet été, c'est 80 à 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale.
Donc, si je vous entends bien, Christian, on a dit que le ras-le-bol fiscal venait de loin, mais ce gouvernement a sa part de responsabilité dans la situation. Hein. L'ISF, on va en parler, bien sûr, mais par beaucoup d'autres de ses choix, il a mis le feu aux poudres.
Alors, ce gouvernement, il a mis effectivement le feu aux poudres pour plusieurs raisons. D'abord, il a quand même... Il y a ce niveau, effectivement, des prélèvements, mais il y a eu d'abord un sentiment de frénésie fiscale, c'est-à-dire une espèce d'instabilité qui crée de l'insécurité fiscale. Et là, on est quand même encore dans le vieux monde, c'est-à-dire qu'on a un problème, on fait une loi, on fait une taxe, quitte à générer des contradictions. Regardez par exemple, on nous dit qu'on veut plus de chaudières au fioul, et puis au mois de juillet, on avait encore des incitations pour des chaudières au fioul. Il y a eu toutes ces remises en cause permanentes. Alors même si ça n'est que du bruit, par exemple, sur le logement, on nous dit, ah bah tiens, on va modifier le dispositif Pinel pour que les membres de la famille puissent plus en profiter. On nous dit, attendez, vous avez pas de télé, mais c'est pas grave, vous allez sans doute payer la redevance. On nous dit, vous avez un canapé à vendre, ah bah peut-être on va aller voir quand même si vous gagnez pas trop d'argent, et puis on va taxer ce que vous vendez sur le bon coin. Et puis on a eu Gérald Darmanin, alors même si ça s'est pas concrétisé, mais qui a dit, bah, attendez, les prestations des comités d'entreprise, on va regarder de plus près, puis on va vous fliquer sur Internet. Il y a cette impression de perte de liberté.
Et tout ça est un peu anecdotique.
Non, parce que ça crée un sentiment d'instabilité et d'insécurité. Et la deuxième chose, effectivement, c'est ce sentiment d'injustice.
C'est surtout ça.
Parce que la réalité, c'est que quand vous faites, et on va y revenir, quand vous faites la baisse de la fiscalité sur le capital à 30% et la suppression de l'ISF, fondamentalement, c'est bon pour l'économie française. Sauf que quand vous le faites simultanément...
Christian sourit.
Oui, bah évidemment. Sauf que si vous le faites simultanément à la baisse... des allocations logement, à la suppression des contrats aidés, et que toutes ces mesures sur le capital, c'est tout de suite, et que les mesures sur les cotisations sociales, c'est plus tard, politiquement, c'est une erreur, parce que vous créez effectivement ce sentiment d'injustice.
Problème de timing, donc.
Absolument.
Mais c'est pas un problème de timing, c'est un problème de choix politique. Emmanuel Macron a choisi de renforcer l'injustice fiscale en France. Il mène une guerre de classe. Et Warren Buffett, le grand investisseur américain, qui avait dit oui, il y a une guerre de classe en ce moment dans tous les pays, c'est ma classe qui la mène, celle des riches, et on est en train de la gagner. Emmanuel Macron, il a complètement été dans ce sens-là. La hausse de la CSG qui démarre à des niveaux extrêmement bas de revenus pour les retraités, 1200 euros, plus la faible revalorisation des retraites, plus 0,3%, alors qu'on est sur une inflation autour de 1,5-1,6. Les retraités surtout du bas, perdent du pouvoir d'achat. Quand vous prenez l'ensemble des baisses d'impôts, taxes d'habitation, EDEOS, CSG, etc., vous prenez l'ensemble plus la baisse des aides au logement, la faible revalorisation. L'Institut des politiques publiques a fait le calcul sur l'impact par type de ménage pour 2018-2019. Les résultats, c'est quoi? Les 20% les plus pauvres perdent en pouvoir d'achat. Les 1% les plus riches voient leur revenu augmenter de 5,9%. 20% les plus pauvres, vous perdez. Vous êtes 1% les plus riches, vous voyez votre revenu augmenter de 5,9%. Pour les 0,1% les plus riches, calcul de l'Institut des politiques publiques, je n'en revenais pas, 86 290 euros de revenus en plus du fait de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, 6 SMIC annuel de plus pour les 0,1% les plus riches. Voilà, c'est ça l'injustice fiscale et comment Emmanuel Macron en a rajouté, non pas une louche, une énorme louche.
Donc la suppression de l'ISF, pour vous, c'est pas bon pour l'économie, comme le disait Emmanuel.
Alors, si vous voulez qu'on attaque le débat sur l'ISF, il faut prendre à la fois l'ISF, est-ce que Emmanuel a rappelé tout à l'heure, le prélèvement forfaitaire unique à 30%, ça veut dire que les revenus du capital, si vous touchez des intérêts, si vous touchez des actions, si vous faites des plus-values, avant, c'était taxé au niveau de la tranche supérieure du revenu la plus élevée quand vous étiez riche, autour de 45% et plus le forfait social, donc ça pouvait monter plus haut. Mais Emmanuel Macron a dit on ramène tout à un minimum de 30%.
Pour s'aligner sur tous les autres
pays. Pour l'ensemble des autres pays.
C'est pour la compétitivité.
Alors déjà, première promesse du candidat Emmanuel Macron.
Et l'attractivité du pays.
Un, je vais le faire. Et deux, et je vous cite le programme du candidat Emmanuel Macron. Au total, la réforme de la fiscalité du capital se fera à coût nul. Ça nous coûte déjà cette année 5 milliards d'euros. Donc la promesse, elle n'est pas tenue. C'était coût nul, 5 milliards. 5 milliards pour qui ? Les placements financiers, ça représente 90% des patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros. 2% pour les gens qui ont un patrimoine inférieur à 7 500 euros. Donc, on a une perte de recettes fiscales, un accroissement de l'injustice fiscale. Est-ce que la France taxait beaucoup plus le capital que les autres pays ? Oui. Est-ce qu'on taxait beaucoup plus le rendement du capital que les autres pays ? Oui. Et alors ? En baissant en faisant les 30% et en supprimant l'ISF, on devait faire quoi ? Attirer les investisseurs ? En 2016, on était le troisième pays au monde qui attirait les investisseurs. C'est pas la fiscalité qui empêchait les investisseurs de venir. Je me suis amusé.
Mais il paraît que c'est beaucoup mieux encore cette année.
Ah ben, on peut toujours dire que c'est la raison de la fiscalité, mais comme l'a dit, je sais plus si c'est Gérald Darmanin ou le Premier ministre, c'est trop tôt pour estimer l'impact. En tout cas, jusqu'en 2016, là où on a vraiment les stats avant la mise en œuvre de la politique, on était déjà un pays qui attirait beaucoup les investisseurs. Moi, je me suis amusé à faire un petit truc. J'ai pris l'indice de compétitivité tel que le donne le Forum de Davos. Donc, vous voyez, c'est une source très sérieuse. Et en face, j'ai mis le niveau de prélèvement sur le capital. Vous avez un gros machin, aucune relation. Il y a des pays qui ont beaucoup de taxes sur le capital, beaucoup de compétitivité, peu de taxes sur le capital, peu de compétitivité, peu de taxes sur le capital, beaucoup de compétitivité. Il n'y a pas de relation claire. Donc, pour ça, ça ne va pas. Et puis, le dernier argument, c'était, oui, mais attendez, il y a plein de Français qui sont partis chez les riches. On va faire revenir les Français riches qui sont partis. Il faudra déjà qu'ils soient partis. D'après Bercy, les dernières stats qu'ils ont données, 0,2% des redevables de l'ISF étaient partis. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis ? Rappelez-vous le canard enchaîné au mois de juin 2016. Vous êtes très riche, vous restez en France avec vos conseillers fiscaux. Vous n'avez pas besoin de partir pour payer moins d'impôts. Je vous rappelle le résultat du canard enchaîné de juin 2016. Sur les 50 plus gros contribuables français, 11 devaient payer l'ISF, payaient 0 ISF et les autres, ils avaient un taux d'ISF de 10%. Voilà.
Emmanuel Lechypre, réponse.
Alors, on peut être dans le déni de réalité.
Je vais te donner des stats, là, c'est attention.
Je vais vous en donner aussi. Parfait. La vérité, c'est que.
La vérité, oh là là.
L'ISF, un poison pour l'économie française. C'était un poison pour l'économie française. Je vous rappelle qu'on était effectivement le seul pays à l'avoir. Alors on avait des statistiques.
Non, contrairement pas le seul pays à l'avoir.
On était un des seuls pays à l'avoir. Et Christian l'a dit, on taxait le plus le capital et les revenus du capital. Alors il y avait des comptes qui avaient été faits, qui n'étaient pas ceux de Bercy sur les Français qui sont partis, mais on avait des moyens de les estimer parce que Bercy est dans le déni de réalité. Évidemment, vous avez votre vitrine, vous n'allez pas dire que votre vitrine elle est moche. Les chiffres qu'on avait jusqu'à il y a peu, et on en a des nouveaux depuis hier. C'est
quelle
ça qui
source,
est très intéressant. Les chiffres qu'on avait, qui étaient des compilations qui étaient faites notamment par la Fondation Concorde à partir de ce que disaient les avocats fiscalistes.
Libéraux,
non, pas du tout. Oui, mais ce qui est formidable avec Christian, c'est que si vous voulez, les chiffres de l'OFCE de gauche, ils sont parfaits.
Les chiffres. Et Emmanuel, les chiffres d'Ultra Libéraux, ils sont parfaits.
Est-ce que les chiffres de Rexecode, ça vous convient mieux?
Oui, tout à fait,
je les ai. Je vais vous les citer.
Moi aussi.
Ils nous disaient déjà, avec ceux qui sont partis, vous avez à peu près des pertes de recettes fiscales qui sont de, en gros, toutes les entreprises qui sont parties, qui créent de l'emploi ailleurs, et qui auraient pu être créées en France, ça aurait rapporté 7 à 8 milliards de recettes fiscales, alors que l'ISF rapportait 5 milliards. Donc le coût était négatif. Et puis hier, on a un travail de Rexecode qui est paru et qui nous dit finalement, l'ISF depuis, alors sous diverses formes, depuis 1982 qu'il a été créé, il a coûté 0,06 points de croissance à l'économie française chaque année, avec notamment toutes ces boîtes qui sont parties. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'avait pas eu l'ISF, le PIB français, en 2017, il aurait été supérieur de 45 milliards
bien
d'euros.
Bien sûr, si on avait eu sur 40 ans, oui, bien sûr.
Bah, évidemment, ça fait 40 ans que ça dure. Il aurait été supérieur de 45 milliards d'euros à ce qu'il a été, qu'on aurait pu taxer, effectivement. Et puis, deuxième cancer de l'ISF.
Cancer, carrément.
Oui, poison. Il y en a deux qu'il ne faut pas oublier. C'est que, un, pourquoi les entreprises françaises versent beaucoup de dividendes ? Parce que vous avez beaucoup d'entreprises familiales dans lesquelles vous avez des actionnaires donc qui ont une part du capital, donc une part de la fortune, mais qui ne touchent aucun revenu, hormis les dividendes. Et donc, pour payer l'ISF, les boîtes étaient obligées de verser des gros dividendes, ce qui a asséché leur situation financière. Et puis, il y a des boîtes aussi dont les patrons, pour échapper à cet ISF, ont tardé à transmettre et que ça a été mauvais pour la compétitivité des boîtes. Moi, je vous dis une seule chose. En France, on a... 5800 entreprises de taille intermédiaire, qui sont ces fameuses entreprises de quelques centaines à quelques milliers de salariés, qui sont celles qui créent l'emploi.
Et c'est très peu.
Mais attendez, c'est très peu. Les Italiens, ils en ont 8000, les Anglais 10000, les Allemands 12000. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est parce que les Français, les patrons français sont plus cons que les autres, mais ça me paraît un peu court. Donc il y a bien des raisons, c'est que c'était un impôt qui était nuisible à notre
attendez, juste un mot parce qu'on va avancer. Juste un mot parce que moi j'ai lu aussi l'étude de Rex et Code, elle nous dit quoi? Que on perdait à cause de l'ISF 150 millions de recettes d'ISF à cause des Français qui partaient. Je vous rappelle que ça rapportait 5 milliards. Donc c'est au Rex et Code 150 millions sur 5 milliards.
Alors avançons, comment sortir de cette crise? Vous avez dit tout à l'heure qu'on pourrait sortir de la crise par le haut en rétablissant ou pas l'ISF. On va voir en tout cas comment le gouvernement peut-il s'en sortir sans se renier. Quelles sont ses portes de sortie sur le plan fiscal, Christian?
Alors, la part du revenu national qui est captée par les 1% les plus riches s'est passée de 7% au début des années 80 à 11% aujourd'hui. Plus, si vous rajoutez qu'une fois enlevées les dépenses contraintes, c'est-à-dire tout ce que les ménages sont obligés de dépenser, l'assurance, la voiture, la nourriture, pour les 10% les plus pauvres, en moyenne, il reste 180 euros par mois. En moyenne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui il reste zéro. D'où cette idée d'une sécession des riches, d'où cette idée d'une première proposition, une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu, premièrement, deuxièmement, à laquelle seraient assujettis les revenus du capital, plutôt que les 30% actuels. Ça, c'est la première piste. Et deuxième piste, nous, pardon de faire de l'autopromo, mais Alter Echo, on a publié hier un appel de 75 chercheurs en sciences sociales et qui proposent une solution. La solution, c'est laquelle? Vous prenez l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. C'est un organisme public qui dit quoi? Il dit: pour vivre normalement dans ce pays, il faut 1500 euros. D'accord? Il faut 1500 euros. Aujourd'hui, vous avez un SMIC à temps plein plus la prime d'activité, c'est-à-dire ce qu'on vous donne lorsque vous travaillez mais vous n'avez pas assez de revenus, vous êtes à 1300 euros.
Donc, augmentation du SMIC.
Alors, soit vous dites augmentation du SMIC, mais tous les gens qui sont à ce niveau de revenus ne sont pas tous des salariés. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, ce que les 75 personnes qu'on a publiées hier disent, c'est qu'il faut augmenter la prime d'activité pour que tout le monde soit au minimum de 1500 euros. Idem, l'exemption de la CSG qui commence à 1200, il faut que ça, de la hausse de la CSG, il faut que ça commence à 1500. Vous allez me dire, il est gentil, Chavagneux, il claque l'argent, mais où est le fric, quoi? Où est le fric?
Eh ben, ça coûte cher aux entreprises et à l'État.
Eh, voilà. Alors, où est l'argent? Eh ben, moi, je vais vous le dire. D'abord, le gouvernement, il avait prévu, dans son programme, sur les 5 ans qui viennent, d'augmenter la prime d'activité de 20 euros par an, tous les ans. Alors, les technos de Bercy sont arrivés pour cette année, ils nous ont diminué le 20 euros en 8 euros. Je ne vous passe les détails techniques, mais enfin, bon, si vous enlevez les technos de Bercy, ça veut dire qu'une partie de la proposition que je viens de faire, elle est déjà budgétée. Pour l'autre partie, honnêtement. Comme l'a dit un grand patron, le CICE, ça nous coûte 20 milliards. Ce gouvernement est le seul gouvernement qui a réussi à ce qu'une mesure à 20 milliards lui coûte 40 milliards. Pourquoi? Parce que vous avez 20 milliards de CICE qui vont être donnés aux entreprises en 2019, plus, puisque le CICE est transformé en baisse de cotisation sociale, plus les 20 milliards de baisse de cotisation sociale. Ça fait 40 milliards. Est-ce qu'on peut pas faire juste un des deux l'année prochaine? Ça vous fait 20 milliards. Moi, le calcul que je vous ai fait de passer la prime d'activité, de l'augmenter pour passer de 1300 à 1500 euros de salaire minimum, ça coûte à peu près 7 milliards par an. Je le répète, un, c'est déjà budgété par le gouvernement, deux, vous avez 20 milliards. Vous avez plusieurs années de financement de cette mesure. Donc voilà.
Emmanuel Le Chypre, on augmente le SMIC, on crée une tranche supérieure de l'impôt.
Il y a des sorties de crise qui, à mon avis, sont problématiques parce qu'elles compromettent notre compétitivité et notre croissance à long terme. Je pense que augmenter le SMIC et ne faire que ça, le SMIC brut, c'est-à-dire le coût du travail pour les entreprises. Encore une fois, on sait que quand vous augmentez le SMIC, mécaniquement, vous détruisez de l'emploi.
Alors ça, c'est faux. Hein,
1%,
ça.
Non, c'est pas faux. 1%
aucune étude
SMIC,
ne le montre.
C'est pas vrai. Toutes les études le montrent.
Ah, c'est complètement faux.
Si 1% de hausse du SMIC.
Je les mettrai sur notre site.
Bah, vous n'avez pas les mêmes références.
Ouais. 10%, je les mettrai sur notre site.
Mais ça, on pourra, sans problème. Non, mais attendez. À coût du travail identique, ça détruit de l'emploi. Parce que la magouille de Christian, c'est qu'effectivement, derrière, on file des baisses de charges pour baisser le coût du travail. C'est ce qu'on a fait avec les 35 heures, etc. Donc, si vous ne touchez pas...
Mettre à les sources.
Si vous ne touchez pas aux cotisations sociales, moi aussi, vous avez grosso modo 1% de hausse du SMIC, c'est 3 000 à 50 000 emplois détruits. Donc, c'est pas la bonne solution. Ça augmente le coût du travail. Je vous rappelle que y a 2 millions de Français qui travaillent pour des entreprises étrangères qui ne viendront pas si le coût du travail augmente.
Donc,
en France.
La prime d'activité.
Rétablissement de l'ISF, stupide aussi. Et d'ailleurs, je vous rappelle, le mal est déjà fait. Je vous signale que quelques minutes après le tweet de Marlène Schiappa qui dit on va peut-être remettre l'ISF, les taux d'intérêt à long terme sur la dette française ont augmenté. C'est-à-dire qu'en gros, tout le travail qui a été fait pour faire croire que l'attractivité de la France était revenue, eh ben, c'est déjà ruiné. Il y a des sorties,
ça c'est mauvais.
Les sorties pour gagner du temps, c'est la prime de 1000 euros, mais dont on voit bien que c'est que
défiscalisé.
Et moi, je pense que ce que propose Christian, c'est très bien pour sortir de la crise à court terme, mais ça ne la résout pas à long terme. C'est-à-dire décaler les 20 milliards de CICE, c'est une bonne solution. Après, il y a les sorties par le haut. Et moi, j'avoue que ce qui me plaît dans ce mouvement des Gilets jaunes, et je ne suis pas du tout d'accord avec Gérald Darmanin qui dit, ah ben, attendez, si on baisse la dépense publique, il y a moins de services publics. Mais non, ce que les gens ont compris, c'est que le rapport qualité-prix du service public en France n'est pas bon. Quand vous êtes le premier sur la dépense publique, le premier sur l'impôt, et que vous êtes le deuxième en précarité, le sixième en chômage, le 23e en matière de mortalité prénatale,
les gens ne demandent pas une baisse des dépenses publiques.
Non, les gens, ils... non. Ça, les gens, ils demandent de payer moins d'impôts et d'avoir un meilleur service public. Ce qui veut dire que si vous payez moins d'impôts, il faut qu'il y ait moins de dépenses. Et ce qui est possible.
Moins d'infirmières.
Mais justement,
moins
non.
Moins de profs.
Mais c'est ça l'idée.
Ah, voilà.
C'est
qu'il en faut
aujourd'hui,
plus.
Il est possible. Alors, on va pas égrener tous les gaspillages d'argent et les dysfonctionnements. Mais la réalité, attendez, prenez, on parle de la santé. Pourquoi est-ce qu'un bloc opératoire en France, il ne tourne que 22 heures par semaine, alors qu'il est censé tourner 53 heures? Je veux dire, il y a une vraie réforme de modernisation du service public à faire. Et donc, la sortie par le haut, c'est de dire, on fait une réforme fiscale, vous la voulez, on la fait. Et en même temps, on fait une réforme pour inventer le service public du 21e siècle. Ça, c'est la sortie par le haut. C'est ce que veulent les Gilets jaunes. Et moi, je dis que s'ils arrivent à imposer par le bas cette réforme de l'administration et de l'État que la haute administration refuse depuis 70 ans, eh ben, ce
alors,
sera une sortie de crise par le haut.
En résumé, la baisse des dépenses publiques d'un côté, la hausse de la
pour un meilleur service
de l'autre,
public.
Et une réforme fiscale, vous êtes d'accord là-dessus?
Absolument.
Vous retrouvera dans un instant. On va faire un point tout de suite sur la situation, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'acte 4 du mouvement des Gilets jaunes. Avec vous, Laurent Kramer, voyons où ça bloque ce matin.
Pour l'instant, la situation semble calme avec un dispositif de sécurité hors norme sur la capitale. 317 personnes ont été interpellées à Paris ce matin, selon la préfecture, avec une trentaine de gardes à vue. Les quelques milliers de gilets jaunes déjà présents sur les Champs-Élysées ont été intégralement fouillés selon nos reporters pour y accéder. Un périmètre de sécurité spécifique de plusieurs dizaines de mètres est même déployé autour de l'Arc de Triomphe pour empêcher les manifestants d'approcher. Des grands magasins fermés, vous le savez, des musées aussi parisiens fermés aujourd'hui. En région, ce sont des regroupements de gilets jaunes qui sont attendus cet après-midi, notamment à Bordeaux ou à Toulouse. Mais des autoroutes sont déjà partiellement fermées. L'autoroute A10, fermée entre Blaye et Saint-André-de-Cubzac, en direction de Bordeaux et en direction de Paris, entre Ambès et les Bourdes. La 6 est également fermée dans les deux sens, entre Lyon et Mâcon. Manifestation sur la 7, entre Loriol et Avignon Sud. Et dans l'Est, une opération escargot se déroule actuellement du côté de Mulhouse, sur la 36. La 54, enfin, est fermée dans les deux sens, entre Saint-Martin-de-Crau et Salon de Provence.
Laurent Kramer.
Apprenti d'Auteuil, fondation catholique reconnue d'utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l'enfance, la confiance peut sauver l'avenir.
Oui, bonjour, donc Stéphane Dauge, directeur de la communication et de la collecte pour la fondation Apprenti d'Auteuil. La fondation accompagne aujourd'hui en France 27 000 jeunes et 5 800 familles. Nous accompagnons ces jeunes et ces familles autour de quatre missions que sont la protection de l'enfance, la lutte contre le décrochage scolaire, l'insertion sociale et professionnelle et l'accompagnement à la parentalité.
Alors, vous avez observé une baisse importante des dons par rapport aux années précédentes. Une baisse de combien?
À ce jour, nous sommes à moins 24%. C'est-à-dire que nous avons un retard à combler par rapport à l'an dernier de l'ordre de 4 millions d'euros.
4 millions d'euros,
hein. Oui. Traditionnellement, nous avions une collecte importante au printemps qui était dû au fait qu'un certain nombre de nos donateurs étant assujettis à l'ISF faisaient...
L'impôt sur la fortune. Hein,
l'impôt sur la fortune, voilà, qui a été en tout cas remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Donc un certain nombre de donateurs qui avaient en fait un butoir calendaire au printemps qui les incitait à effectuer leurs dons avant l'été, aujourd'hui n'étant plus assujettis, ne nous ont pas encore fait de dons. En effet, nous avons aujourd'hui près de 36% de notre collecte annuelle à réaliser d'ici la fin de l'année, ce qui représente un peu plus de 9 millions d'euros.
Voilà, c'est la conséquence la plus inattendue de la nouvelle donne fiscale cette année, dont ce dont on parlait tout à l'heure, la baisse des dons aux associations. On parle de 10 à 12% de baisse en ce week-end du Téléthon. On verra bien sûr demain soir si la tendance se vérifie. En tout cas, toutes les fondations reconnues d'utilité publique tirent la sonnette d'alarme en pointant du doigt notamment la suppression de l'ISF qui serait responsable pour moitié de ce manque à gagner, sachant qu'un don aux associations pouvait ouvrir droit à d'importantes déductions fiscales. Mais il n'y a pas que ça. Notre reporter Anaëlle Verzeau est donc allée trouver des réponses sur le terrain avec notamment Stéphane Dauge, directeur de la collecte des apprentis d'Auteuil.
Alors, il y a une autre partie de vos donateurs qui sont des personnes moins fortunées, des retraités.
Oui, effectivement. Alors, chaque semaine, nous recevons des courriers de ces donateurs. Je dirais une quinzaine de courriers environ.
Par semaine.
Voilà, une quinzaine de courriers par semaine.
Alors là, vous en avez justement sous les yeux quelques-uns de ces courriers.
Tout à fait. Alors, par exemple, là, j'ai un courrier où il nous est dit « En raison de l'augmentation de la CSG sur les retraites, je ne peux plus vous venir en aide et je le regrette vivement ». Un autre courrier ici qui nous dit « Suite au prélèvement sur les retraites depuis janvier 2018, je perds considérablement de mon pouvoir d'achat et de ce fait, j'ai décidé de ne plus donner à aucune des trois associations à qui je faisais des petits dons dans le passé ». Quelqu'un qui nous dit « Je vous donne moins que l'an dernier car je suis en maison de retraite, très âgé et sur la retraite que je touche, on m'a retenu 47 euros par mois ». Voyez, voilà un exemple. La conjoncture actuelle, j'en suis bien conscient, est assez morose, mais cet élan de générosité est indispensable pour permettre à nombre de ceux qui vivent dans notre pays et qui ont eu un démarrage difficile, leur permettre de se remettre debout et de s'en sortir.
Au niveau national, l'association France Générosité fait le même constat. Pierre Siquier, vous êtes le président de France Générosité, mais je vais vous laisser vous présenter.
Oui, bonjour. Bah, écoutez, je représente 97 associations et fondations qui font appel à la générosité du public. Donc, nous représentons la quasi-totalité du secteur, ou presque.
Et vous avez constaté qu'il y avait cette année, pour la première fois, une baisse très importante des dons.
Tout le monde est touché par cette baisse des dons globale, puisque à fin juin, on avait une baisse des dons qui était de 6,5% par rapport à l'année dernière sur l'ensemble de nos associations et fondations.
Et alors en chiffres, ça fait combien? On passe de combien à combien?
C'est-à-dire que la générosité publique venant du privé, c'est 2,6 milliards par an. Donc c'est vrai que ça fait quand même quelques centaines de millions en moins sûrement à la fin de l'année.
Quelques centaines de millions d'euros
oui,
en moins.
Oui, absolument. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir une baisse très significative des dons en fin d'année. On l'estime aujourd'hui à moins 10 ou moins 12% en tous les cas au minimum. Donc ce qui fait, si vous prenez 10% de 2,6 milliards, ça fait 260 millions au minimum. Donc c'est beaucoup d'argent.
En moins.
En moins pour les associations. Donc c'est autant d'unités de recherche en moins pour les grands instituts de recherche ou bien d'accompagnement de missions sociales pour les plus défavorisés, pour les SDF, pour les lits à l'hôpital. C'est-à-dire les gens qui dorment dans l'hôpital, bah, ils sont souvent pris en charge par des associations. Ou les gens qui accompagnent leurs enfants atteints de cancer, bah, c'est les associations qui prennent le relais. Ou bien en fin de vie, c'est les associations qui prennent le relais. Donc s'il n'y a pas ça, eh bien, on manquera quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est de la défiscalisation, c'est vrai que c'est des subventions, mais l'État s'en occupe mal de ces secteurs-là, et donc nous, on est vraiment à la racine de ça, pour mieux s'occuper de tout ça. Donc il ne faut pas nous déstabiliser par un environnement, pas que fiscal, hein, parce que le pouvoir d'achat, c'est pas...
À la fois de la fiscalité et du pouvoir d'achat plus globalement.
C'est absolument vrai, c'est les deux. Et c'est ceux qui ont encore moins de pouvoir d'achat, c'est-à-dire c'est les plus démunis, qui vont encore en prendre plus dans la tête.
Alors, quelle solution? Faut-il rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune, ou revoir l'assiette de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière? Les propositions de Xavier Delsol, avocat fiscaliste.
Alors évidemment, la première réaction possible, c'est de dire qu'il faut réaugmenter l'assiette de l'IFI. Le deuxième élément de réponse, ça peut être déjà de dire, comme c'était d'ailleurs le cas pour l'ISF, et je pense que ça jouait beaucoup, c'est tout simplement que les particuliers puissent calculer le montant du don qui permettra ou qui ouvrira droit à une réduction d'impôt jusqu'au jour de leur déclaration de revenus, comme c'était le cas pour l'ISF. C'est-à-dire que pour l'ISF, lorsque le particulier faisait sa déclaration fin mai ou début juin, selon le cas et selon le montant de l'ISF, le jour où il faisait sa déclaration, il allait l'envoyer au Trésor, après avoir calculé le montant de l'ISF qui était dû, il pouvait se dire, si j'ai 4000 euros d'ISF à payer, si le même jour, ce jour-là, je fais un chèque de 4000 euros en rajoutant juste 1000 euros à telle ou telle fondation, à ce moment-là, je peux, en bas de ma déclaration, déduire 75% des 4000, ce qui fait 3000, et j'avais zéro d'ISF. Si on faisait la même chose pour l'impôt sur le revenu, ce sera, à mon avis, une très très bonne chose qui inciterait énormément les personnes à se dire « je vais permettre de baisser ainsi mon impôt sur le revenu ». D'autant plus que, on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a un autre effet d'impact qui va probablement jouer en 2018, c'est le fameux impact de l'année blanche, où les gens sont persuadés, mais à tort, que leurs dons consentis en 2018 n'auront pas d'impact puisqu'il n'y aura pas d'impôt sur le revenu de 2018. En réalité, ce don sera bien déductible également, enfin à hauteur classique des montants de 66% et autres, des revenus de l'année 2019.
Alors, Maître Del Sol, là, on a parlé des dons des particuliers. Du côté des entreprises, est-ce qu'on observe une augmentation ou une baisse également des dons à ces fondations d'utilité publique ?
Bien, effectivement, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a une très forte augmentation des dons des entreprises, aussi bien d'ailleurs des petites entreprises ou des PME que des grandes entreprises. Et on estime dans les derniers chiffres de 2017 le montant des dons à entre 1,5 milliard et 1,6 milliard d'euros. Alors il y a une polémique qui est née depuis quelques semaines sur la perte pour le Trésor sur ses dons, puisque l'entreprise a droit à 60% de réduction d'impôt. Certains disent, il y a 900 millions d'euros, donc 60% de 1,5, il y a 900 millions d'euros qui sont perdus pour le Trésor public.
Du rapport entre la fiscalité et le niveau des dons aux associations, c'était un reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamps.
Conséquence inattendue donc de cette suppression de l'ISF. Emmanuel Lechifre, vous vouliez rajouter un mot ?
Oui, parce qu'on a parlé du prélèvement à la source et si jamais on se lance dans une réforme fiscale, il faut bien voir que ce prélèvement à la source, il offre des outils nouveaux, parce qu'il est plus contemporain, mais surtout parce qu'il permet l'individualisation. Et là, ça ouvre des tas de possibilités. Donc, effectivement, quand on dit réforme fiscale, c'est pas pour prendre aux uns et donner aux autres, c'est pour que l'impôt de tout le monde baisse. Donc, on peut envisager plus de progressivité de la CSG, par exemple, pour soulager la CSG qui pèse sur les bas revenus et qui est très élevée. Pourquoi pas un revenu universel ou une prime d'activité pour que, évidemment, compléter
le revenu universel, vous plaidez pour le revenu universel.
Évidemment, ou un impôt négatif. Et il faut rappeler qu'on a entendu beaucoup de mères célibataires cette semaine. Et aux États-Unis, il y a un dispositif qui a permis d'augmenter de 40% le revenu des mères célibataires. Donc voilà, il y a plein de pistes pour faire une vraie réforme fiscale.
Christian Chavagneux, le dernier mot.
On a vu qu'avec Emmanuel, on n'était pas d'accord déjà sur les constats. Pendant 3 mois, le Premier ministre nous propose d'avoir un débat clair sur où on en est des impôts, où on en est de l'efficacité. Par exemple, sur le CICE, on a déjà des résultats. On sait que ça marche pas. Ouais. Donc on va remettre tout ça sous la table. Et puis moi, je suis d'accord pour ouvrir ce débat.
Ça fait quand même 40 ans qu'on n'avait pas eu cette opportunité.
Tant mieux. Christian Chavagneux, Alternative économique, Emmanuel Lechypre, BFM Business. Merci à vous et à samedi prochain. En ligne avec nous, c'est l'invité dont n'arrête pas l'écho, Pascal Lamy, qui n'a pu venir en studio malheureusement. Bonjour Pascal Lamy.
Bonjour.
Président émérite de l'Institut Jacques Delors, ancien commissaire européen pour le commerce, ancien patron de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors ce mouvement des gilets jaunes qui vous a bloqué ce matin, est-ce qu'il n'est pas aussi le résultat de l'orthodoxie financière budgétaire européenne ? Ces règles strictes que les États se sont imposées à eux-mêmes sur la dette et les déficits, les fameux 3%, qui brident les dépenses publiques et interdisent les politiques de relance par la consommation. En gros, est-ce que l'Europe n'a pas sa responsabilité dans tout ça ?
L'Europe se donne des règles que les États membres de l'Europe, les dirigeants européens, se donnent ensemble pour gérer ensemble l'Europe, et notamment parce que nous avons une monnaie commune qui s'appelle l'euro. À partir du moment où nous logeons ensemble dans le même immeuble monétaire, il est assez compréhensible qu'on se donne des règles pour vivre ensemble parce que ça crée des responsabilités. Ces règles européennes, elles visent à quoi ? Elles visent simplement à ce que, à partir du moment où on est ensemble dans le même immeuble monétaire, certains n'en profitent pas au détriment des autres. Donc c'est une discipline collective. Elle n'est d'ailleurs pas si stricte que cela, puisqu'elle autorise, en fonction de la conjoncture, un déséquilibre entre les recettes et les dépenses publiques. Mais il faut bien partir d'un constat, et j'écoutais les conversations précédentes avec intérêt, il faut bien partir d'un constat qui est que la dépense publique ce sont des recettes publiques et des dépenses publiques. On ne peut pas augmenter les recettes publiques et puis ensuite dire les impôts augmentent parce qu'on a augmenté la dépense. Si nous avons trop de dettes publiques, euro ou pas euro, si nous avons trop de dettes publiques, nous laissons à nos enfants, c'est comme en matière environnementale, c'est comme en matière écologique, nous laissons à nos enfants une dette financière ou une dette écologique qu'ils devront honorer à notre place. Et ça, ça n'est pas responsable.
Mais ce fameux chiffre des 3%, Pascal Lamy, même Gérald Darmanin ici même a dit que 2,8 ou 3,2, c'était pas le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre.
Non, mais
il peut y avoir une souplesse, donc.
Bien sûr, et d'ailleurs la Commission européenne, que les États européens et les citoyens européens ont chargé d'administrer ces règles, de les appliquer, de proposer des mesures au cas où ça dérape, la Commission européenne elle-même fait preuve de souplesse. Regardez cette affaire italienne qui vient du fait que le gouvernement italien nouvellement élu a dit « Je fais un brassaire à Bruxelles, j'en ai rien à foutre des règles de l'euro et je vais dépenser en augmentant les dépenses et en réduisant les impôts. » Au bout d'un certain temps, ils sont en train de s'apercevoir que ça peut pas marcher. Donc il ne faut pas transformer Bruxelles en ramin à gros bis. Nous avons des règles. On peut déraper de 3% du produit national brut, ce qui est considérable hein, dans les avec les volumes actuels. Et tout ceci vise au fait que on ne peut pas, en gros, excéder durablement un niveau de dette pour chaque État qui correspond à 60% de ce qu'il produit. Nous sommes aujourd'hui, nous Français, aux alentours de 100%. Il faut continuer à réduire la dette publique. Encore une fois, pourquoi ? Parce que un jour, ça devra être payé. Quand vous empruntez de l'argent à quelqu'un, il s'attend à ce qu'il soit payé. Et si c'est pas nous qui le payons, ce sera nos enfants. Si c'est pas alors, nos enfants, c'est pas nos petits-enfants.
Oui. Alors des règles communes, Pascal Lamy, maintenant, pourquoi ne pas aussi travailler à des fiscalités communes, à rapprocher les fiscalités, aller vers cette fameuse convergence dont on parle depuis longtemps et qui est très difficile à trouver.
Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système européen, qui est que la fiscalité est restée une décision qui se prend à l'unanimité des États membres, alors que dans quasiment tous les autres domaines, sauf les questions de politique étrangère et de défense, les décisions se prennent à la majorité, et quand on a 28 ou bientôt 27 États membres probablement, réunir une unanimité, c'est beaucoup plus difficile. Et on le voit bien, par exemple, sur le projet de la Commission européenne de taxer les GAFA, les Google, Facebook and Co. Ça a pris des mois de discussion. On arrive à quelque chose qui est un résultat assez maigre par rapport aux intentions de départ. Donc, sur ce point, je suis totalement d'accord. Nous avons à peu près harmonisé en Europe les règles de la fiscalité indirecte. Souvent, les gens ne savent pas que les taux de TVA, qui sont quand même la grosse partie de la recette publique, y compris chez nous en France, les taux de TVA ont été harmonisés pour éviter que les gens n'aillent acheter chez les voisins quand les taux de TVA étaient plus bas et n'achètent pas là où ils sont les plus hauts. Bon, eh bien, il faut faire la même chose. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire la même chose en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les successions. Par contre, en matière d'impôt sur les sociétés, il me paraît absolument anormal que l'impôt sur les sociétés puisse varier de 10, 20 à 30% selon les pays. Et ça, c'est quelque chose qui est probablement en route. Mais à l'occasion des élections européennes de juin de l'année prochaine, ceci est un bon débat.
Alors justement, Pascal Lamy, on est obligé d'aller vite. À propos des élections européennes, comment vous les voyez ? Est-ce que vous craignez un succès des mouvements populistes ? Est-ce qu'on va vers un scénario à l'italienne, en France aussi ?
L'Institut Jacques Delors, Paris et Berlin, a publié il y a 3 semaines un papier qui a fait pas mal de bruit et qui essaie en quelque sorte de prévoir la composition de ce que sera le Parlement européen à l'issue des élections européennes en 2019 en s'appuyant sur, disons, les mouvements, les sondages, ce qu'elle ne sait pas ici et là. En gros, le résultat, c'est que non, il n'y aura probablement pas de poussée majoritaire anti-européenne d'extrême droite ou d'extrême gauche au Parlement européen. Par contre, le bon vieux temps dans lequel les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates géraient en duopole les affaires au Parlement européen sont terminées. Il faudra probablement une coalition de chrétiens démocrates, de sociaux-démocrates, de libéraux et de verts pour gérer l'Europe dans les 5 ans qui suivront les prochaines élections européennes. C'est une combinaison un peu différente de ce qu'on a connu par le passé. Elle est, à mon avis, assez intéressante d'ailleurs.
Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors, merci beaucoup d'avoir été l'invité, un peu rapide malheureusement compte tenu des circonstances de ce On n'arrête pas l'écho. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour Yves.
Une question de Marina ce matin qui travaille dans un magasin du centre-ville de Bordeaux. Elle redoute de possibles violences ce samedi. Alors a-t-elle le droit d'exercer son droit de retrait ?
Marina, cette question s'était déjà posée lors des attentats du 13 novembre. Des salariés de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, du Panthéon ou de la Basilique Saint-Denis avaient fait valoir leur droit de retrait. Ils avaient refusé de travailler. C'est un droit qu'on peut exercer si on a un motif raisonnable de penser qu'il y a un danger grave et immédiat pour notre vie ou notre santé. Quand l'Élysée explique à nos confrères de France Info qu'il faut s'attendre à une très grande violence aujourd'hui, difficile de trouver meilleur mot d'excuse et rien d'étonnant à ce que les employés qui travaillent dans les quartiers les plus exposés aient peur d'aller bosser. Beaucoup de lieux publics et d'enseignes ont d'ailleurs pris les devants. Des magasins, des musées, des théâtres, la Tour Eiffel sont fermés ce samedi. C'est aussi le cas à Bordeaux, Marina, où vous travaillez. Mais de nombreuses boutiques restent ouvertes pour les courses de Noël. Si vous constatez que votre entreprise ne fait pas ce qu'il faut pour assurer votre protection, vous pouvez exercer ce droit. Un employeur a tout intérêt à prendre des mesures. Si l'un de ses salariés était blessé alors qu'il avait été prévenu du danger, il pourrait être poursuivi en justice.
Alors concrètement, comment Marina peut-elle procéder si elle veut faire valoir ce droit de retrait ?
C'est très simple, mais il faut impérativement prévenir l'employeur ou le Conseil social et économique qui remplace l'ancien comité d'entreprise et le CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité. Pas besoin de demande écrite. Votre employeur ne peut pas vous sanctionner ou procéder à une retenue sur salaire en situation de menace légitime. Dans le cas contraire, c'est alors le juge qui tranchera. Les magistrats ont considéré que les courants d'air dont se plaignait une salariée ne constituaient pas un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Le droit de retrait a fait son retour sur les projecteurs avec cette période de manifestation et de violence, mais c'est un droit ancien. Les secteurs du BTP ou des transports en sont coutumiers. Personne ne peut obliger un grutier à monter à 30 mètres de hauteur par grand vent. Un chauffeur de poids lourd peut refuser de reprendre le volant après une journée de travail de plus de 20 heures. Il y a 15 jours, 25 postiers de la plateforme de colis de Castres ont stoppé la distribution de courriers pendant une journée. Ils jugent que la nouvelle organisation du travail et les suppressions d'emplois rendent les cadences intenable. Le droit de retrait préventif est souvent une façon de se remettre à la table des négociations.
Ma vie au boulot avec Sandrine Foulon. Merci, à samedi prochain.